This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazz dans l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Dans le précédent épisode, j'indiquais que 1938, cette année-là, fut une année décisive. Nous allons revenir sur, après que nous ayons évoqué à large trait ce qui s'est passé cette année-là, nous allons revenir sur un épisode qui s'appelle les accords de Munich, parce qu'il ne faudrait jamais oublier que, même si c'est une affaire territoriale, c'est par cette affaire territoriale qu'a commencé la Deuxième Guerre mondiale, mais derrière cette hégémonie territoriale, il y avait quand même une idéologie. Le parti nazi, qui avait donc pris le pouvoir en Allemagne par les urnes, il faut quand même le rappeler, s'est donc imposé par un certain nombre d'idées. Ces idées, incarnées évidemment par le chancelier Hitler, elles étaient destinées à souder, à donner à l'Allemagne et au peuple allemand une espèce d'idéologie, une sorte d'objectif à atteindre. Alors c'était trois mots, ein Reich, ein Volk, ein Führer. Un pays, un peuple et un guide. Cette idéologie, donc, elle s'est mise en œuvre dès l'accession, évidemment, au pouvoir de Hitler. Et elle a été, malheureusement, partagée par une bonne partie du peuple allemand, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, pour ne pas rentrer dans les détails. Et donc, au moment des accords de Munich, eh bien, il y a deux dictateurs qui sont autour de la table, Hitler et Mussolini. Ces deux dictateurs, au fond, sont des menteurs. Ils vont négocier avec les pays occidentaux qui, eux, naïvement, sont des gens crédules. Ils croient les gens qu'ils ont en face. Et ils vont, ces gens-là vont les tromper. Et c'est sur ce mensonge initial, fondamental, de ce régime nazi que toute la Seconde Guerre mondiale va se construire et va s'organiser. Voyons un document qui nous parle et qui montre l'ambiance au moment des accords de Munich.
Émouvante minute que celle vécue par la foule écoutant les hymnes nationaux des deux pays. Et vers le premier ministre français monte alors une chaleureuse ovation. Un peu plus tard, c'est l'arrivée de M. Chamberlain. Et l'on acclame celui qui, avec une inlassable volonté, vient d'être l'un des plus grands artisans de la paix. Celui qui a su parler au chancelier allemand sur le ton d'un homme libre, dépourvu de haine, mais de crainte aussi. Sans s'arrêter aux détails du protocole, les quatre chefs de gouvernement vont commencer leur conversation. Les drapeaux des quatre nations flottent sur l'édifice qui abrite les négociateurs. Mais une même volonté de paix semble animer ces hommes qui tiennent en leurs mains les destinées du monde. Ainsi, à Munich, est né un immense espoir. En effet, après des délibérations qui durent jusqu'à une heure fort avancée de la nuit, les quatre chefs de gouvernement établissent les bases d'un plan commun qui va permettre le règlement du problème germano-tchèque.
Alors, on va remettre les choses en perspective. Si l'on écoute ce document, c'est formidable, tout va bien, la paix est sauvegardée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 27 septembre de cette année-là, Hitler a envoyé un ultimatum à Prague. Il réclame l'annexion des provinces où l'on parle allemand, les fameuses Sudètes. La conférence de Munich va avoir lieu du 28 au 30 septembre, c'est-à-dire qu'elle commence le lendemain de l'ultimatum. Les quatre chefs d'État, donc, Chamberlain, Daladier, Mussolini et Hitler, vont discuter. Apparemment, la discussion est difficile, mais en fait, c'est un simulacre de discussion parce que Hitler sait déjà ce qu'il va faire. L'ultimatum est donc accepté. Donc déjà, on va négocier sous la menace d'un ultimatum, ce qui n'est quand même pas la meilleure manière de procéder. On va donc officialiser l'abandon des Sudètes par la Tchécoslovaquie au profit d'Hitler et de l'Allemagne. Au passage, la France trahit la Tchécoslovaquie avec laquelle elle a passé des accords pour garantir ses frontières. Mussolini donne son appui à Hitler, mais espère pouvoir préserver quelque temps l'équilibre européen. Le premier ministre tchécoslovaque Jan Sirovi, qui n'a même pas été convié, est averti et est placé devant le fait accompli. Pendant Munich, pendant la conférence, Hitler s'empare immédiatement des provinces des Sudètes. Tous les opposants politiques sont traqués. La Tchécoslovaquie perd un territoire de 30 000 km², peuplé de 3 millions d'habitants. Elle perd des fortifications, des défenses naturelles, ainsi que d'importantes ressources économiques. L'affaire tchèque est réglée. Hitler continue à négocier jusqu'au 30 septembre. Un pseudo-accord est fait et à ce moment-là, il se met à lorgner sur la Pologne. Il se trouve une seule voie, et elle est en Angleterre, pour réagir à ces accords de Munich, c'est celle de Winston Churchill qui, lui, va prononcer un violent réquisitoire contre les accords de Munich. Malheureusement, ça ne suffira pas et ce qui est plus ou moins déjà dans le logiciel de ce conflit va se dérouler. Alors je disais en début d'émission que le nazisme est avant tout, si c'est une entreprise d'hégémonie territoriale, c'est avant tout une idéologie. Alors il va se passer quelques mois plus tard, en novembre, le 9 novembre de cette année-là, il va se passer quelque chose d'épouvantable. On va appeler cette nuit-là, puisque c'est la nuit que ça s'est passé, la nuit de cristal. 191 synagogues vont être incendiées, 76 vont être démolies et 7500 commerces juifs vont être détruits en Allemagne. Le 12 novembre, les juifs allemands sont contraints de payer 1 milliard de Reichsmark à titre de dédommagement pour l'assassinat de von Rath, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Ils auront à supporter la réparation des dégâts, exclus de toute activité commerciale, profession libérale, direction administrative, industrielle, et seront expropriés. Cette nuit va être terrible. En fait, l'affirmation de ce qui allait devenir la solution finale. C'est-à-dire que parce que ces gens sont juifs, eh bien, on va essayer de les éliminer de la population allemande.
1938, Adolf Hitler est au pouvoir en Allemagne. Depuis 5 ans, il y a instauré le Troisième Reich, un régime totalitaire reposant sur le culte de la personnalité et sur le nazisme, un fascisme à l'allemande fondé sur le racisme biologique et sur l'antisémitisme. Le 7 novembre 1938, Ernst von Rath, secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, ici à gauche, est assassiné par un jeune juif polonais, Herschel Greenspan, dont la famille, vivant en Allemagne, vient d'être expulsée. Les nazis se servent de cet acte comme prétexte pour organiser des représailles envers la communauté juive qu'ils présenteront ensuite comme une manifestation spontanée de colère de la population, un pogrom à grande échelle connu sous le nom de Nuit de Cristal. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, des centaines de synagogues sont incendiées, des cimetières juifs profanés, plus de 7000 magasins sont détruits et pillés et une centaine de personnes tuées. 30 à 35 000 hommes juifs seront arrêtés et déportés. Une nuit de violence que les Allemands commémorent chaque année avec comme leitmotiv « Plus jamais ça », à l'instar du discours d'Angela Merkel lors des cérémonies du 70e anniversaire.
Le racisme et l'antisémitisme ne doivent jamais avoir de seconde chance en Allemagne et en Europe.
Historiquement, la nuit de Cristal fut bien plus qu'un pogrom. Elle marqua un nouveau durcissement dans l'acharnement antisémite du régime nazi. De nouvelles lois furent promulguées, privant les juifs de leurs moyens de subsistance, les excluant de toute vie sociale ou leur interdisant l'accès à la plupart des professions libérales. Des lois censées les isoler et les inciter à quitter l'Allemagne, prélude à la solution finale et au camp de la mort. La nuit de Cristal annonçait donc les prémices de la Shoah.
Alors ce sera aussi le début de l'exil, puisque de nombreux, d'abord peu nombreux au début, mais puis de plus en plus nombreux, évidemment, de nombreux juifs vont imaginer ne pas pouvoir rester, et donc vont partir d'Allemagne. Ils vont d'abord s'exiler en France, et puis nombreux seront ceux qui partiront aux États-Unis, où peu à peu ils reconstitueront une communauté conséquente. Communauté qui aura probablement une influence sur l'entrée en guerre des États-Unis. Alors aux États-Unis, eh bien, on observe tout ça avec inquiétude, mais le New Deal a fait son office et donc on fait toujours une musique de danse, une musique. Alors c'est la vogue des grands orchestres. Et comme je le disais dans l'épisode précédent, il va se passer une chose extraordinaire, c'est-à-dire que la grande salle de New York, Carnegie Hall, va accueillir le Big Band de Benny Goodman qui va donner donc un concert historique. Nous en avons donné quelques extraits. On va en donner à nouveau quelques extraits aujourd'hui. Et c'est avec un morceau, une composition de Benny Goodman qu'on va commencer ce concert en public, donc à Carnegie Hall. I'm Coming Virginia, donc une composition de Benny Goodman, interprétée par son grand orchestre à Carnegie Hall le 16 janvier 1938. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'exil de certains juifs allemands aux États-Unis. Il se trouve que cet exil a commencé depuis très longtemps en Europe, puisque des exilés russes, puis polonais, devant l'antisémitisme des pays slaves et des pays de l'Europe de l'Est, ont beaucoup émigré déjà vers les États-Unis. Et Benny Goodman lui-même est d'origine juive. Son père, David Goodman, a émigré au début du XXe siècle. Il est polonais, il est donc parti et il a intégré à New York la communauté déjà existante des juifs polonais qui étaient nombreux. Il y a un autre musicien très connu qui est aussi, dont les parents étaient aussi des immigrés, c'est Stan Getz, qui d'ailleurs racontera plusieurs fois comment il a, dans son enfance, subi, y compris aux États-Unis, il habitait dans le Bronx, ses parents habitaient dans le Bronx, il a subi l'antisémitisme lorsqu'il était enfant et il dira que ça l'a beaucoup marqué, et probablement marqué au point qu'il ne s'en remettra pas vraiment. Une fêlure, Stan Getz, musicien en apparence très lisse, très un peu teenager en apparence, et en fait était quelqu'un d'extrêmement tourmenté. Probablement c'est son enfance qui peut l'expliquer. En tout cas, Benny Goodman, donc, par son jeu à la clarinette aussi, emmène une tradition musicale. C'est un petit peu la tradition klezmer qu'on retrouve dans son jeu à la clarinette lorsqu'il fait du jazz. Et d'ailleurs, entre cette musique, l'instrument, déjà la clarinette est un instrument que pratique la communauté yiddish en Pologne. Et puis le jeu aussi avec cet instrument rappellera aussi cette tradition musicale. Et donc le jazz va agglutiner d'une certaine façon, musique métissée par excellence, va agglutiner ces différentes influences pour donner ce swing que l'on a qualifié de blanc, qu'incarne Benny Goodman, mais qui n'était pas tout à fait blanc puisqu'il y avait des musiciens noirs dans son orchestre. Et que ça a été l'un des événements de Carnegie Hall, évidemment, d'avoir un grand orchestre, un big band mixte. Alors, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de ce concert, Life Goes to a Party, une composition de Benny Goodman et Darry James.
Thank you.
Benny Goodman et son orchestre. Alors, je vais quand même vous donner un peu la composition de l'orchestre. Il le mérite bien. Donc, Harry James à la trompette avec Ziggy Ellman et Chris Griffin. Red Ballard, Vernon Brown au trombone, Amy Schetzer et George Cunning au saxophone alto, Art Rollini, Babe Russin au saxophone ténor, Jess Stacy au piano, qu'on entend là dans ce morceau, Alan Russ à la guitare, Harry Goodman, le frère de Benny Goodman à la basse, Gene Krupa à la batterie, qui est le métronome de l'orchestre, et Edgar Sampson avait écrit les arrangements de l'ensemble de ce concert. Ce concert c'est une date historique dans l'histoire du jazz, puisque c'est à ce moment-là que cette musique conquérera une très large audience. Et il faut signaler, donner le nom de la personne, il s'appelle Albert Marx, qui un amateur, passionné de jazz, qui a donc enregistré ce concert sans lequel nous ne pourrions pas aujourd'hui entendre ce que nous entendons. Alors on va terminer par un extrait de la jam session de la fin du concert. Ça s'appelle Sing, Sing, Sing. C'est une composition de Razaf and Bury, donc un compositeur qui travaillait pour Duke Ellington notamment. Et donc le grand orchestre de Benny Goodman s'en donne à cœur joie avec le plus grand plaisir pour le public de Carnegie Hall.
Thank you.
Voilà, nous allons laisser Harry James, trompette virtuose, et Gene Krupa, batteur exceptionnel, à signaler que ces deux musiciens, après cette période, quitteront l'orchestre de Benny Goodman pour fonder eux-mêmes leur propre orchestre, et on comprend très bien pourquoi. Voilà, cette demi-heure est terminée. 1938 n'est pas terminée, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.